de faire venir tous les missionnaires que nous avons, hein, donc tous les gens qui partent du Canada pour aller dans d'autres pays pour bâtir l'Église, de venir ensemble. Ils ont invité également des jeunes leaders, des pasteurs, des gens au niveau du leadership de chaque district à venir aussi et à participer à cet événement-là. Donc, comme Pasteur Marc le disait, moi et Kenzo, qui est notre directeur ici au Québec, on est allés. Donc, on a eu le privilège de participer à cette semaine-là de conférences et de rencontres sur le thème de la mission. Donc, vous voyez ici un petit aperçu de notre temps ensemble. Par la suite, durant le message aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer des images. Toutes ces images-là, ce sont des photos que j'ai prises, à l'exception d'une bannière là, qui aura les insignes de notre famille d'église. Ça vous permettra de voir des photos de mon voyage, mais en même temps, on va aller dans la parole de Dieu. Et on va aller aussi dans une petite explication de qu'est-ce que la mission ou comment est-ce qu'on vit la mission comme famille d'Église, parce qu'on appartient à la grande famille de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Canada. Donc, on va faire ça un peu tout mélangé ensemble. Brièvement, je suis allée dans 3 pays durant les 3 semaines que j'ai été partie. Donc, vous voyez 3 photos de 3 pays. La plus grosse photo, c'est la photo de la Thaïlande. Donc, la Thaïlande, c'est l'endroit où on a eu la conférence là, de la mission. Et c'est là qu'on est restés tous ensemble. Et vous voyez 2 autres photos qui représentent 2 autres pays. On les appelle des pays à accès créatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est des pays où on ne peut pas s'annoncer comme missionnaire. On ne peut pas dire, ben moi, je rentre puis j'aimerais partager ma foi avec les gens. Parce que la liberté religieuse ne fait pas partie généralement des libertés que les gens ont dans ces pays-là. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir des conséquences légales si une personne partage sa foi avec une autre personne qui n'a pas déjà cette foi-là. Donc, ce n'est pas le genre de conversation nécessairement qu'on peut avoir. Par contre, nous, on croit à la possibilité de partager notre foi avec tous les gens. On croit que tout le monde a besoin d'entendre et ont le droit d'entendre et de prendre leurs propres décisions par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'on envoie des gens dans ces pays-là. Donc, grosso modo, je ne vous dirai pas ce matin de quel pays il s'agit. Tout ça pour vous expliquer que je ne vous dirai pas de quel pays il s'agit. Alors que je me promenais dans un de ces pays-là, j'ai vu un tableau. Alors là, c'est la photo d'un tableau que j'ai acheté. Le premier tableau que j'ai acheté de toute ma vie. Probablement que ça sera le seul, peut-être. Et quand j'ai vu ce tableau-là, ça l'a vraiment touché quelque chose de profond dans mon cœur. Je suis venue un peu avec les larmes aux yeux. Et vraiment, il y a un verset qui m'est venu spontanément comme ça à l'esprit. « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. » Et si vous regardez un petit peu ce tableau-là, vous voyez qu'il est en couleur sombre. Donc, c'est un tableau qui a été peint à partir de l'huile non raffinée qui est extraite de la terre et qui devient éventuellement de l'essence. Donc, c'est avec ça que le tableau est peint. Il était sombre, hein, les ténèbres. Et là, on voit une ville avec des mosquées derrière qui est entourée d'un grand mur. Alors, c'est un peu comme si cette ville-là, elle est comme fermée. Et alors que j'ai eu ce verset-là qui me venait à l'esprit et que j'ai ressenti cette émotion-là, je me suis dit, ça va être un appel pour moi à la prière. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a des gens dans notre église qui, depuis des années, hein, prient pour les gens qui sont de confession musulmane, qui n'ont pas accès ou qui n'ont pas la liberté d'entendre une autre perspective. Hein, quand on dit une autre perspective, ce n'est pas juste la perspective chrétienne, ça peut être la perspective de n'importe quelle autre, finalement, philosophie ou religion. Moi, je prie pour eux depuis plusieurs années. Il y en a aussi dans notre église qui prie pour eux. Et aujourd'hui, en fait, c'est la conclusion du Ramadan. Donc, si vous sortez, vous voyez beaucoup de trafic autour des mosquées ou des centres culturels. C'est parce qu'ils concluent le jeûne qu'ils font du Ramadan. Alors, voyons voir un peu D'où est tiré ce verset-là des Écritures? Ce verset-là nous vient d'Ésaïe au chapitre 9 et c'est une prophétie. Mais on le voit aussi dans le Nouveau Testament et on va tourner ensemble dans le livre de Matthieu au chapitre 4. Je vais le mettre à l'écran si vous n'avez pas votre Bible avec vous. Mais Matthieu chapitre 4, le verset 12. On va commencer là. Donc, lorsqu'il, c'est-à-dire Jésus, apprit que Jean avait été arrêté, Jésus se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capernaum, ville située près du lac, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qu'avait annoncé le prophète Ésaïe. Territoire de Zabulon et de Nephtali, route de la mer, région située de l'autre côté du Jourdain, Galilée à la population étrangère. Le peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetait un filet dans le lac. C'était en effet des pêcheurs. Et ici, on parle de gens qui pêchent le poisson et non pas de gens qui commettent des péchés. Il leur dit, « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Il alla plus loin et vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans une barque avec leur père Zébédée et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, proclamant la bonne nouvelle du royaume, et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Donc, nous voyons que ce verset-là, hein, le peuple qui marchait dans les ténèbres, qui a vu une grande lumière, il se situe, ou du moins Matthieu, hein, nous le cite au début du ministère de Jésus. Dieu ouvre la porte à la mission. Et c'est ce que nous voyons dans ce texte-là. En fait, Dieu prêche par l'exemple. Jésus se rend de Nazareth à Capernaum. Nazareth qui était une ville typiquement juive, avec une population typiquement juive. Même culture, même religion. Et il s'en va à Capernaum. Capernaum qui était une ville un peu plus portuaire. Certains commentateurs suggèrent que presque la moitié de la population aurait pu être d'origine étrangère. Donc, on est dans un contexte qui est complètement différent et c'est là que Jésus décide de commencer la mission. Bel exemple, n'est-ce pas? Jésus sort de sa zone de confort et là où il décide d'aller annoncer la bonne nouvelle, hein, la bonne nouvelle, c'est le même mot là, qu'on utilise pour dire évangile, ça veut dire la même chose. Donc, quand Jésus va annoncer la bonne nouvelle du royaume, il ne le fait pas dans un contexte qui est habituel. Il le fait dans un contexte qui est un peu inconfortable, un peu interculturel, qui n'est pas chez lui, finalement. Il nous montre le chemin. Mais si on recule même un peu plus loin, hein, la Bible nous enseigne, nous, comme chrétiens, nous croyons un Dieu qui est trinitaire, c'est-à-dire qu'il est Père, Fils et Saint-Esprit. Et Jésus, c'est Dieu qui se fait chair, Dieu incarné, Dieu qui vient vers nous d'une manière dont on peut le comprendre. Vous aurez sûrement déjà parlé avec des gens, peut-être qui se disent chrétiens ou qui viennent d'une autre tradition, d'une autre religion. Et lorsqu'ils vous parleront de Dieu, c'est un petit peu comme l'image d'un grand juge avec une barbe longue qui est sur son trône, mais qui est vraiment distant, il est vraiment loin de nous. Et des fois, les prières ressemblent un peu à « Dieu, si tu peux comprendre, hein, de là où tu es, si tu es préoccupé par ma situation, si jamais au cas où, réponds-moi. » Mais la Bible Notre foi en Jésus nous présente un Dieu qui est près de nous, un Dieu qui s'est assez soucié de nous pour venir vers nous en prenant une forme humaine, donc en se faisant chair, en s'incarnant, c'est ce que ça veut dire le mot incarnation. Donc, il a traduit, si on peut dire comme ça, le langage du ciel à notre contexte d'une manière dont on pouvait vraiment le comprendre. Alors, Dieu nous montre l'exemple, parce que nos missionnaires, qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils vont dans des pays étrangers? Ils s'ajustent à une autre culture, ils incarnent le message de l'Évangile d'une manière qui est intelligible, d'une manière que les gens peuvent comprendre. Ce matin, vous aurez peut-être remarqué, si vous me connaissez bien depuis longtemps, généralement, je ne suis pas autant maquillée que ça. Ce matin, mon maquillage est un peu exagéré, comparativement à l'habitude, n'est-ce pas? Mon habillement est un peu différent. Quand je suis partie, les deux pays que j'ai visités, que je vous présentais au début, sont deux pays musulmans. Et je suis partie avec mes idées de qu'est-ce que ça voulait dire vivre dans un pays musulman. Et j'ai découvert que ces deux pays-là étaient complètement différents. Même religion, même branche de l'islam, mais une manière de vivre complètement différente. Donc, ce matin, j'ai choisi, là, je vais faire une petite démonstration devant, là, mais j'ai choisi de m'habiller un peu comme une locale de l'un de ces pays-là. Merci. Donc, vous voyez, c'est très ample. Les couleurs sont très foncées. Et là, peut-être que ce qui m'aurait manqué, c'est d'avoir des pantalons un peu plus larges. Malheureusement, j'en avais pas. Mais si vous aviez été dans ce pays-là, vous auriez vu, les femmes sont toutes pas mal habillées comme ça et on voit rarement des femmes voilées. Pourtant, c'est un pays musulman. C'est des gens qui sont musulmans. Pourtant, quand j'étais assis au restaurant, il n'y avait pas de musique dans le speaker, mais là, tout d'un coup, on arrive, l'heure d'iftar arrive, donc la fin du jeûne, et tout d'un coup, le speaker propulse à un volume démesuré l'appel à la prière. Et les gens s'arrêtent et commencent à prier. Et là, moi, j'étais vraiment surprise. Je ne m'attendais pas à ça. Et pourtant. Donc, on arrive dans un contexte missionnaire. On arrive dans un contexte missionnaire qui est différent de ce à quoi on s'attend. Et j'ai fait l'expérience. Au début, je suis arrivée avec des vêtements que je considérais comme étant modestes. Et là, je me suis rendue compte que je clashais un peu avec la culture parce que même si j'avais des vêtements amples, tu sais, il y avait une petite bordure rouge, il y avait une petite ligne rouge, donc il y avait un motif. Il n'y avait pas de femmes qui n'avaient aucun motif sur leurs vêtements. Et les couleurs, c'était seulement des couleurs ternes et des couleurs foncées. Donc le rouge, on oublie le projet. Et je n'étais pas maquillée. Alors, je me suis adaptée après avoir passé ma première journée puis à me faire vraiment regarder et comme tout le monde me parle en anglais parce que visiblement, je suis une étrangère. Je me suis adaptée et à ma grande surprise, le reste de la semaine, on parlait dans une langue que je ne comprenais pas. Donc, c'est bon et c'est pas bon, donc, mais bon, vous comprenez. Donc, la perspective des gens avait changé juste à cause de l'habillement. Parce que tout d'un coup, maintenant, je réponds au standard culturel de modestie qui est défini par comment tes vêtements sont amples et quelle couleur tu choisis. Nous, on dirait plutôt peut-être, dans notre culture, les femmes qui sont simples se maquillent peut-être un peu moins, un peu plus discrètement. Mais on ne penserait pas nécessairement au même. On ne dirait pas une femme qui porte du blanc, est un peu moins modeste que les autres, ou qui porte du rose, tu sais. On n'aurait pas ces idées préconçues là. Mais voilà ce qui se passe lorsqu'on entre dans une nouvelle culture. Et Christ l'a fait pour nous. Il est venu vers nous pour qu'on puisse vraiment comprendre le message de l'Évangile. Et c'est une grâce. C'est une grâce qu'on a reçue. Et c'est cette même grâce-là qui nous pousse à aller vers d'autres et à parfois faire des ajustements qui, au final, c'est pas grave si mes vêtements sont un peu plus amples. C'est pas grave là, si je me maquille un peu plus. Si ça permet à quelqu'un d'entendre l'Évangile, si ça permet à quelqu'un de se sentir confortable en ma présence. Donc, Dieu ouvre la porte à la mission par son exemple. Il prêche par sa vie. Dieu ouvre également la porte à la mission à travers l'appel des disciples que nous voyons dans ce texte-là. C'est aussi cet appel-là un peu un modèle de l'appel qu'il nous fait, comme nous aussi nous sommes ses disciples, si nous avons choisi de mettre notre foi en Jésus. D'abord, il dit à ses disciples, il les appelle à le suivre, et il dit aux deux premiers frères, « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Je trouve ça intéressant que Jésus ait utilisé cette image-là. Il a utilisé vraiment une image que ces hommes-là, qui se dédiaient, c'était leur métier de pêcher des poissons, ils comprenaient très bien ce que ça voulait dire, attraper des poissons. Alors, Dieu les appelle là où ils sont, et leur dit un peu, d'un langage qu'ils peuvent comprendre, « Voici ce à quoi je vous appelle. » Mais aussi, je me suis demandé à la lecture de ce texte-là, est-ce que ce n'est pas possible qu'ils les appellent aussi avec les dons qu'ils ont déjà? Je vais réorienter ta capacité à attraper. Tu n'attraperas plus des poissons, c'est des hommes maintenant que tu vas attraper. Dieu nous appelle avec nos dons. Il nous appelle avec nos capacités. Il nous appelle avec qui on est comme personne. Je ne suis pas sûre que ça aurait été la même chose s'il avait été voir les disciples et leur avait dit « Je vous appelle à maintenant... Avant, vous guérissiez des moutons. Maintenant, je vous appelle guérisseur d'hommes. » Mais si c'était des pécheurs, il aurait dit « Hein, quoi? Tu m'appelles à genre guérir des hommes, mais moi, je suis un pécheur. Ce que je sais faire, c'est ramasser des poissons. » Dieu dit « Avec ce que tu sais faire, je t'appelle. » J'utilise les dons que je t'ai déjà donnés. J'utilise les intérêts que je t'ai déjà donnés. Mais je vais te montrer comment les mettre au service de l'Évangile. Comment je vais t'aider à mettre ces choses-là au service des autres. Pas juste une compétence pratique, mais une compétence qui devient à la fois pratique et spirituelle. Mais voilà aussi qu'il appelle les disciples pendant qu'ils sont occupés. Et préoccupés par le travail, par la famille, par leurs biens. Ils sont en train de réparer les filets. Certains d'entre eux sont en train de réparer les filets. Ils sont avec leur père. Ils sont en train de travailler. Et Dieu dit, viens, suis-moi. Est-ce que ce n'est pas dans un contexte comme ça souvent que le Seigneur nous appelle? Ce n'est pas juste quand on est assis à rien faire dans notre salon. On est rarement assis à rien faire dans notre salon. Hein? Dieu nous appelle dans le contexte où nous sommes. Et parfois, il nous réoriente malgré ces occupations-là, malgré ces préoccupations-là. Et le défi de notre appel, c'est de répondre au moment où Dieu nous appelle. Il n'est pas indifférent à notre contexte, mais il nous appelle à travers notre contexte. Il nous appelle à le suivre. Dieu ouvre la porte à la mission également en nous offrant une plus grande connaissance de sa personne et de sa puissance. Et il le fait avec les disciples après que les disciples aient répondu à son appel. Que voyons-nous dans le texte? Nous voyons, ils ont suivi Jésus après avoir sorti de leur barque. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a commencé à enseigner dans les synagogues. Il a commencé à guérir les infirmes et les gens qui avaient toutes sortes de maladies. J'aime bien cette photo-là. Si vous voyez, c'est une porte ouverte qui donne sur une autre porte. Celle-là est fermée. C'est comme si, une fois que les disciples ont franchi la première porte qui s'est ouverte de l'appel, qui ont choisi de dire « oui, j'entre dans cet appel-là », Dieu leur a permis de connaître plus qui il est comme personne et de l'expérimenter aussi encore plus. Donc, ils ont dû faire un pas de foi, entrer dans l'appel, pour découvrir plus à travers cet appel-là. Frères et sœurs, on peut avoir soif de connaître plus Dieu, de le voir plus à l'œuvre, et c'est une bonne chose. Mais l'obéissance ouvre la porte à encore plus avec le Seigneur. Lorsqu'on choisit de s'engager, de dire « Ok Seigneur, je crois que dans mon cœur, là, c'est ça le prochain pas de foi que j'ai besoin de faire. » Bien, Dieu ajoute sa bénédiction à notre foi. Il nous permet de découvrir un peu plus. Mais tant qu'on reste stagnant, On hésite, on attend. Et pourtant, Dieu a une autre porte là, qui est prête à s'ouvrir pour nous. Alors, si on veut voir qu'est-ce qu'il y a derrière la porte, il faut franchir la première. Et c'est la bénédiction de la mission. Dans la mission, on apprend à connaître plus Dieu. On apprend aussi à le voir plus à l'œuvre. Et ça, on le fait hein, en allant vers d'autres peuples, dans d'autres pays. Mais on le fait aussi lorsqu'on prie pour les gens qui n'ont pas eu l'opportunité d'entendre ce message-là. Et que là, tout d'un coup, on commence à entendre des témoignages. Lorsqu'on va aussi vers des collègues de travail, vers des gens peut-être avec qui on interagit, qui n'ont pas la même culture que nous. Hein, ils n'ont pas la même langue que nous. Ils n'ont pas nécessairement la même religion que nous. Et on décide d'aller. Dieu nous rencontre en chemin. Dans l'Alliance, on choisit d'envoyer nos missionnaires dans des pays qu'on appellera difficiles et sombres. Je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il y en est. Si vous voyez la photo ici, c'est la photo d'un tapis qui a été tissé à la main. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous. C'est un grand tapis, hein, comme ceux qu'on voit là, qui remplit là, une belle grosse partie de notre salon. Là. Nous, on les achète, c'est fait en industrie, mais dans certains pays, il y a encore des gens qui se dédient à le faire à la main, comme c'était à l'origine. Si on me donnait le devoir, et je ne sais pas pour vous, là, mais si on nous donnait le devoir à nous de devoir tisser un tapis comme ça, moi, je clarifierais l'exercice de difficile. Juste que je sois capable de faire un rectangle, ça serait déjà un exploit. Maintenant, commencer à faire tous les petits dessins, là, puis que ça soit symétrique et égal, c'est pas facile, n'est-ce pas? Nos ouvriers internationaux, c'est le langage qu'on utilise dans l'Alliance. On parle pas nécessairement de... On n'utilise pas le mot missionnaire, on va utiliser ouvriers internationaux. Ils ont parfois de la difficulté à entrer dans certains pays, un peu comme ce que je vous expliquais auparavant, parce que les visas sont difficiles à obtenir, parce qu'il y a de la présence de violence ou il y a peut-être un risque de désastre naturel, un accès aux services essentiels qui est limité, etc. Et on s'est engagé comme famille d'Église à dire, ben, Jésus est venu vers nous, là où on était, on a eu l'opportunité d'entendre le message de la voix chrétienne, eh bien, on est engagé à aller vers des endroits qui sont difficiles d'accès, pour une raison ou une autre. Parce que nous croyons que le désir de Dieu, c'est de rejoindre toute personne, de donner à toute personne une opportunité d'entendre l'Évangile. Là, vous me direz, pourquoi entendre l'Évangile? Bien, parce que c'est un message tellement important, guys! Merci pour l'enthousiasme. Juste au cas où il y en avait qui dormaient, là. On va également vers des endroits qui sont sombres. Donc, on définit comme sombre des endroits où il y a moins de 2 % de chrétiens. Pourquoi moins de 2 % C'est parce qu'on estime hein, que quand il y a moins de 2 % de la population qui est chrétienne, ce n'est pas tout le monde qui a l'opportunité d'entendre l'Évangile. Donc, l'Église n'est pas en mesure nécessairement de rejoindre tout le monde au sein de la culture. Donc, ça peut être un endroit aussi où il y a de l'hostilité envers les chrétiens. Bon, ça peut être légal, mais ça peut être juste social. Hein? Ça peut être de la discrimination. Ça peut être des obstacles à la conversion. Comme je vous expliquais tout à l'heure, hein, une personne qui dirait, ben moi, je veux devenir chrétienne, ben ça serait non. Tu peux faire de la prison. Des fois, tu peux être mis à mort. Des fois, ben c'est social, donc tu vas perdre ton travail. Des fois, peut-être, c'est ta famille qui va te renier. Donc, il y a quelque chose de sombre autour de ça. Peut-être aussi que l'absence d'accès à une église ou à des ressources chrétiennes et aussi une absence d'autres ouvriers internationaux. Pourquoi je parle d'autres ouvriers internationaux? Et en fait, je vais vous lire une citation d'A.B. Simpson, qui est le fondateur de l'Alliance chrétienne et missionnaire. Il dit ceci, ça vous aidera à comprendre la philosophie qui nous anime. Ce mouvement, c'est-à-dire le mouvement de l'Alliance, vise à atteindre les champs missionnaires les plus négligés, à éviter les sentiers sur lesquels ont marché d'autres ouvriers, à continuer d'aller vers les régions lointaines et plutôt que de construire sur la fondation d'un autre missionnaire, d'amener l'Évangile là où Christ n'a pas encore été prêché. L'objectif qu'on a comme comme famille d'Église, lorsqu'on fait la mission, c'est pas d'ajouter plein d'autres missionnaires à un pays qui a déjà beaucoup de missionnaires, hein, d'ouvriers internationaux. L'objectif, c'est pas d'aller en vacances dans un pays qui a peut-être plus de chrétiens que nous, hein, et donner des petits tracts dans la rue ou bien aller faire de l'aide humanitaire dans un pays où il y a déjà une église nationale. Ce n'est pas l'objectif de la mission. L'objectif de la mission qu'on se donne, c'est vraiment d'aller vers ceux qui n'ont pas eu l'opportunité pour qu'il y ait la liberté de choisir ou non, hein, de croire en Jésus. Donc, on veut offrir à tout le monde la possibilité d'entendre le message de l'Évangile parce qu'on croit qu'il est important. Et on a trois stratégies ou trois axes dans lesquels nos missionnaires vont entrer. Donc, je vous disais au départ, hein, quand on voit Jésus qui appelle des pêcheurs de poissons à le suivre, il leur dit, hein, « Laissez vos filets, je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes maintenant. » Donc, il les prend avec les capacités qu'il a et la réoriente pour son service. C'est un peu ce qu'on fait aussi en tant que famille d'Église, avec les gens qui ont à cœur de partager l'Évangile avec les gens qui n'ont jamais eu l'opportunité de l'entendre. Le premier axe qu'on a, c'est l'aide et le développement humanitaire. Si vous voyez ici, là, malheureusement, il y a un petit peu d'ombre, mais c'est en fait un vélo qu'ils ont transformé en table. Je trouvais que c'était une belle image. Si vous voyez là, sur le dessus, à la place d'avoir une selle, il y a une table. Et des deux extrémités, ils ont mis une selle de vélo. Donc, deux personnes peuvent s'asseoir face à face et utiliser la table pour prendre un petit café. Donc, développement humanitaire, on aide les gens à développer leurs propres ressources, à prendre ce qu'ils ont déjà et en faire quelque chose d'utile. L'aide humanitaire, on répond à une crise ou à un besoin urgent. Comme famille d'Église, les ouvriers internationaux, qui s'engagent dans ce profil-là vont travailler auprès des pauvres et des vulnérables pour leur amener à la fois l'Évangile et une aide concrète qui leur redonne leur dignité. Donc, pour les gens, hein, qui, par exemple, sentent un appel à non seulement partager leur foi, mais à travailler, par exemple, dans un camp de réfugiés, ou à aider au développement de micro-entreprises pour sortir les gens de la pauvreté. Donc, c'est un des types de ministères qu'on a, par exemple, sous cette catégorie-là. Une autre qu'on a, bien ça, c'est probablement celle dont on pense le plus souvent lorsqu'on pense à la mission, le développement de l'Église. Donc, il s'agit d'établir et de faire grandir des églises qui évangélisent, c'est-à-dire qui partagent la bonne nouvelle parmi ceux qui ont peu ou pas accès à l'Évangile. Donc, ça, c'est un peu plus indirect. Par exemple, il y a des pays où les locaux n'ont pas accès à aller dans une église, ils n'ont pas le droit de se convertir, ils n'ont pas le droit de marcher, disons, dans une religion ou une perspective différente que celle que le gouvernement leur impose. Mais les étrangers, hein, les travailleurs internationaux, ont droit d'aller dans une église qui est que pour eux. Alors, dans ce contexte-là, par exemple, on pourrait envoyer un missionnaire qui s'occupe de cette église-là et qui va aider à former les locaux pour partager de manière sécuritaire et respectueuse leurs croyances. Donc, c'est un exemple. C'est probablement un contexte qui demande une formation théologique, hein, plus approfondie, mais comme vous l'avez vu dans le premier contexte, hein, une personne pourrait se sentir appelée à la mission et avoir déjà des ressources qui lui permettraient de partir, par exemple, sous le contexte de développement humanitaire. Hein, quelqu'un, par exemple, une infirmière, un médecin, quelqu'un qui, par exemple, serait formé au niveau des finances, ou etc., pourrait aussi aller servir, même s'il n'a pas le même background. Je vous parlais que ces régions du monde-là ont déjà des philosophies. Hein, vous en voyez ici, là, vous voyez à quoi ça peut ressembler. Dans les contextes de ces pays-là, c'est des contextes qui ont des religions officielles ou qui prennent qui sont plus influentes, disons. Mais il y a des endroits aussi où on a une absence de religion qui pourrait être imposée, qui est aussi un contexte dans lequel on pourrait vouloir s'impliquer. Et finalement, le troisième axe qu'on a, c'est l'axe marché du travail. En anglais, on dit « marketplace ». Donc, ça, c'est un endroit où, en fait, les missionnaires, quand ils vont utiliser le travail qu'ils ont déjà pour tisser des liens à titre d'ambassadeur de Christ en recevant le soutien et le coaching d'autres missionnaires. Donc, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, bien, moi, j'ai à cœur de rejoindre les gens avec l'Évangile, mais là, moi, je suis juste un ingénieur minier ou je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas un théologien ou moi, en fait, je suis quelconque autre métier. Hein? Bien, on dit, c'est pas grave, il y a une place pour toi. Et si tu veux, hein, tu peux, on va trouver, par exemple, un travail dans un autre pays et on va te connecter avec l'équipe de missionnaires pour que toi, tu puisses avoir un témoignage dans ton milieu de travail et contribuer à l'avancement du royaume de cette manière-là. Des stratégies qui, en passant, on peut les utiliser ici aussi, bien sûr. Et on le fait un petit peu comme Église, hein, lorsqu'on a un ministère, par exemple, de compassion, lorsqu'on aide des gens qui sont en situation de pauvreté, c'est une manière dont on leur témoigne de l'amour de Dieu. Et il y a des gens qui en viennent à suivre Jésus, et il y a des gens qui ne vont pas nécessairement choisir de suivre Jésus, mais notre travail, hein, c'est d'annoncer le message et de démontrer l'amour de Dieu. Après, les gens, ils ont leur liberté. Mais nous, on est appelés à faire ce travail-là. Donc, suivant cette diapositive-là, j'aimerais vous montrer en fait une vidéo qui a été préparée par des missionnaires qu'on connaît, Don et Betty Orr, qui sont sur la péninsule arabe. Donc, ils vont nous parler un petit peu du profil Marketplace. Et vous noterez que c'est en anglais. J'ai essayé de faire une traduction simultanée en français. C'est pas optimal, mais c'est le mieux que je pouvais faire avec mes connaissances de technologie un peu limitées. Donc, merci pour votre patience.
Nous sommes Don et Betty, nous sommes au Sous-Unis International.
We're standing here with the Mount of Lions in the middle of the Arabian Peninsula.
Nous tenons ici devant une montagne dans la péninsule arabe, dans un désert.
This brilliant light spent some time with Melody and show her a little bit.
Ça a été vraiment un plaisir pour nous de passer du temps avec Mélodie, de pouvoir lui montrer la région aussi. Je vais lui montrer également ce qu'on fait ici.
So what are we doing here?
Alors, que faisons-nous ici?
Well, we serve as area directors overseeing Central Asia and Middle East.
Nous sommes les directeurs régionaux pour le Moyen-Orient et l'Asie centrale.
And we are overseeing our workers who are working with disadvantaged people groups in the area.
Alors, nous supervisons les ouvriers qui travaillent auprès des peuples les moins atteints dans cette région-ci.
Our focus as the Alliance Canada is to go to the heart of the dark places.
Notre objectif en tant que famille d'église de l'Alliance au Canada, c'est d'aller vers les gens, les endroits les moins atteints et les endroits les plus sombres également.
And in many of these places, it's hard to get in with a regular visa. So what we often do is we have marketplace people go.
Dans ces endroits, c'est parfois difficile d'obtenir un visa. Donc, on compte beaucoup sur les gens qui vont avec leur travail séculier. C'est cette manière-là qu'ils peuvent obtenir un visa.
Marketplace workers are professionals who use their job to go into places where the gospel is not known.
Alors, les gens qui utilisent la plateforme qui s'appelle Marketplace sont des gens qui utilisent leur profession, leur métier pour aller dans des endroits où il est difficile d'entrer avec l'Évangile.
They serve in hospitals and in oil field companies.
Ils peuvent travailler par exemple dans des hôpitaux ou dans des entreprises en lien avec l'industrie du gaz, de l'essence.
They're very careful about making sure that they're light in the middle of the dark.
Mais ils s'assurent vraiment d'être une lumière au milieu des ténèbres dans leur milieu de travail.
So thank you for praying for them.
Alors merci de continuer à prier pour eux et de prier aussi pour nous.
And for also, we will be praying for you as you are the light and salt in the dark places where you are.
Et sachez que nous aussi nous prierons pour vous alors que vous choisissez d'être la lumière et le sel de la terre dans ces endroits plus difficiles où vous-même vous œuvrez au Canada.
And if you're tired of civilization.
Et si vous êtes fatigué du monde civilisé,
come on here where we have driven kilometers through the desert.
Vous pouvez venir ici là où nous avons parcouru des kilomètres dans le désert.
On something that Google calls roads, but I wouldn't.
sur ce que Google appelle une route, mais ce que nous appellerions certainement pas une route.
No, don't be deceived. There is very simple answer.
Mais trompez, vous voyez vraiment que c'est une situation ici.
Thank you, bless you.
Que Dieu vous bénisse.
Ah,
on se revoit la prochaine.
Bye.
Alors, merci à Don et Betty pour le petit vidéo qui nous aide à avoir un petit peu le contexte. Parlant de contexte, je veux vous donner un exemple concret que j'ai découvert sur le terrain de comment ces trois types de vocations missionnaires-là sont capables de travailler main dans la main. Alors, quand je vous disais que tout le monde est important dans le travail de la mission, c'est important de bien le comprendre. Le livre que vous voyez en vert sur le côté, avec la belle calligraphie arabe, là, c'est compliqué d'essayer de lire ça, même si vous lisez l'arabe, là. Peut-être juste nos professionnels de l'arabe à l'arrière seront capables de le lire. En fait, c'est une Bible. Si vous notez, là, on ne le voit pas très bien, mais ça se lit de gauche à l'inverse du français. Et elle est faite avec un style qui rappelle un peu un Coran. Cette Bible-là, je l'ai trouvée dans un hôpital. Vous me direz, quoi? Une Bible dans un hôpital? Oui, il y en avait plusieurs même. Et si j'avais plus d'espace sur la photo, vous auriez vu qu'en bas, il y avait un code QR pour les gens, pour qu'ils puissent downloader la Bible sur leur téléphone. Mais comment est-ce que ces Bibles-là se sont rendues dans un hôpital, dans un pays où il est interdit de devenir chrétien ou de devenir, en fait, quoi que ce soit d'autre que musulman? L'histoire commence pendant que ce pays-là vivait des difficultés, où c'était difficile d'avoir accès à des soins médicaux. Des missionnaires, ou du moins une missionnaire, est allée. Elle était aussi infirmière. Elle a aidé à mettre au monde plusieurs enfants, dont, par providence divine, le prochain ou le futur président dirigeant du pays. Elle a fondé un hôpital, et là, ben, marché du travail, hein? Beaucoup d'autres gens sont venus, des chrétiens sont venus travailler dans cet hôpital-là. Des chrétiens viennent encore travailler dans cet hôpital-là. Qu'il n'y a pas juste des gens chrétiens qui sont dans cet hôpital-là, il y a des gens aussi, beaucoup d'employés qui sont musulmans. Et le dirigeant du pays a dit, ben, à cet hôpital-là, je vais leur permettre. C'est aussi dans l'enceinte de cet hôpital-là qu'il y a eu une permission spéciale de construire une église. Une église où maintenant, ben, un missionnaire peut œuvrer comme pasteur pour travailler auprès des ouvriers internationaux. Alors, le chemin à l'Évangile et à l'accès à la parole de Dieu peut être ouvert par toutes sortes de chrétiens, avec toutes sortes d'arrière-plans différents, parce que Dieu utilise chacun de nos appels, chacun de nos dons pour l'avancement du royaume. Et c'est un exemple, j'en ai vu d'autres certainement à travers mon voyage, mais le Seigneur nous utilise avec les dons qu'on a, et on travaille en équipe. Et donc, ce matin, mon message était très simple. Mon appel final aussi l'est. Ne fermez pas les yeux. Je ne sais pas si vous voyez dans la petite craque de ce petit muret-là, là, un petit chat avec les oreilles toutes recourbées et les yeux fermés. Je trouvais que c'était une image bien, bien agréable. Tout le monde peut jouer un rôle dans la mission. C'est en fait l'appel de Dieu pour chacun d'entre nous. On a vu l'entrée en matière de Matthieu, pardon, au chapitre 4, le début du ministère de Jésus. Hein, venez, je veux faire de vous des pêcheurs d'hommes. Mais quand on pense à la fin du livre de Matthieu, avec quoi Jésus termine-t-il? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Matthieu ouvre et ferme avec le thème de la mission. Dieu a cet appel-là, pas juste pour les disciples, mais pour nous aussi, aujourd'hui. Hein, pas juste comme les premiers disciples, mais pour nous qui sommes disciples de Jésus aujourd'hui. Et le défi pour nous, c'est de reconnaître cet appel-là au milieu de nos préoccupations, au milieu de nos occupations. Reconnaître la valeur aussi que Dieu nous a accordée, les dons qu'il nous a accordés. Reconnaître que tout le monde a son rôle à jouer. Peut-être ce matin, vous êtes rendu à une étape de votre vie où vous vous dites, « Bien, moi, j'aurais donc bien aimé ça, faire ça comme étude dans le passé. J'aurais aimé ça, moi, étudier à l'école biblique. Mais il semble que si j'avais étudié à l'école biblique, j'aurais pu servir Dieu. » Oui, vous auriez pu servir Dieu de cette manière. Mais vous pouvez aussi servir Dieu de la manière avec ce que vous, dans l'état où vous vous trouvez maintenant, avec les études que vous avez faites ou l'absence d'études. Ça aussi, ça peut être un atout dans certains contextes. Dieu nous utilise tel qu'on est, avec qu'est-ce qu'on a. Ce matin, ça conclut le message que je voulais vous amener sur la mission, mais ça ne conclut pas notre réflexion. J'aimerais vous appeler cette semaine à prier. Seigneur, comment tu veux que je m'implique dans la mission? Est-ce que tu veux me dire quelque chose? Pourquoi? Parce que j'ai un petit scoop pour vous. La semaine prochaine, on a des invités en or qui s'en viennent. Et ça donne qu'ils vont nous parler de mission aussi. Ils ne vont pas nous dire les mêmes choses, mais ils vont nous dire des choses bien intéressantes. Donc, préparons nos cœurs dans la prière. Et si ce matin, ça a comme résonné en vous, je vous invite à nous faire signe à Marc ou à moi-même. On aimerait prier avec vous par rapport à ça. On aimerait même vous accompagner, si vous le désirez, pour vous expliquer peut-être quelques prochaines étapes de discernement. Donc, terminons en prière et ensuite l'équipe de louange va pouvoir venir à l'avant. Éternel mon Dieu, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu nous aimes et tu nous appelles, Seigneur, avec qui on est au milieu de nos circonstances. Et Seigneur, parfois on se sent pas à la hauteur, parfois on est déchiré entre nos responsabilités et le désir de nos cœurs. Seigneur, toi tu connais toutes ces choses. Donne-nous, Seigneur, de redécouvrir la beauté de l'Évangile, de cette bonne nouvelle-là que tu nous as donnée, que tu nous aimes, en fait, que tu nous aimes au point d'avoir laissé ton confort dans les cieux pour venir vers nous d'une manière qu'on pouvait comprendre. Donne-nous l'humilité de laisser nos préjugés tomber, nos idées préconçues par rapport aux autres qui ne viennent pas du même arrière-plan que nous. Et avec le même amour que tu as eu pour nous, donne-nous d'aller vers les autres. Seigneur, nous confions à toi. Nous avons confiance en toi. Nous le déclarons par la foi. Aide-nous à avoir plus confiance en toi. Et c'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen.